Lionel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Hey, you know what?
Diffusé tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h, Les Nouveaux Chemins sont réalisés par Lady Media cette semaine avec aujourd'hui Martin Delafosse à la technique et préparé par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boisté, Julien Tricard, Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de bodybuilding tout à l'heure dans le journal des Nouveaux Chemins avec le philosophe Thierry Hoquet. Pour nous, c'est le début ce lundi d'une semaine sur Darwin dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, car le naturaliste anglais détient, après Épicure et Machiavel, la médaille de bronze des génies défigurés par une postérité caricaturale, dont la célébrité est à la mesure de la méconnaissance. Que les choses soient claires d'emblée, Darwin n'est pas davantage un partisan de la loi du plus fort que Machiavel n'était un affreux cynique ou Épicure un jouisseur sans âme. Une semaine dont le but est donc de nous immerger, de vous immerger dans la pensée de Darwin pour en prévenir les dévoiements, les parodies, les contrefaçons. Pour ce faire, trois questions guideront notre démarche toute la semaine. Numéro 1, comment comprendre la loi du plus fort tout en récusant son application à l'homme? Comment découvrir le principe de sélection naturelle tout en luttant, comme il l'a fait, contre l'esclavage? Numéro 2, que reste-t-il de Dieu quand la connaissance lui enlève toute raison d'être? Numéro 3, comment penser le changement dans la continuité? Ou comment décrire l'évolution tout en s'interdisant de croire que la nature fait des sauts? Demain mardi, Jean Gaillon vous parlera de darwinisme social. Mercredi, Patrick Thore reviendra sur les rapports de Darwin et de la morale. Jeudi, Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader reviendront sur la théorie de l'évolution. Vendredi enfin, Pierre Pellegrin exhumera pour vous les éventuelles racines aristotéliciennes du darwinisme. Mais tout de suite ce lundi, et c'est comme toujours une joie de l'accueillir au Nouveau Chemin, c'est à Jean-Claude Amezen que revient le privilège d'inaugurer une semaine dont le désir et l'architecture doivent beaucoup à l'excellent livre qu'il consacre à Darwin, intitulé « Dans la lumière et les ombres » et paru en coédition Fayard Seuil. La nature est un temple où de vivants piliers laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Bonjour Jean-Claude Amezen.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue de nouveau sur Les Nouveaux Chemins sur France Culture. Le texte que je viens de lire est le début des Correspondances de Baudelaire, un texte dont on se sert en général pour illustrer la fameuse théorie des synesthésies baudelairiennes. Hein. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Pour une fois, on va s'en servir différemment. Et s'attarder avec vous non pas seulement sur les correspondances, mais sur les longs échos qui de loin se confondent. Et sur cette unité dont Baudelaire dit qu'elle est vaste comme la nuit et comme la clarté, deux vers dont j'ai découvert en vous lisant, Jean-Claude Amezen, qu'il faut les avoir en tête pour comprendre ce que dit Darwin.
Je crois qu'il y a une autre façon d'aborder ces vers, ces très très beaux vers, c'est de penser que non seulement nous sommes en correspondance avec cette splendeur de la nature, mais ce que Darwin nous a révélé, ou ce que Darwin a expliqué, c'est que nous sommes très proches. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement entourés de la nature, nous faisons partie de la nature, et ce qui nous lie aux êtres qui nous paraissent les plus distants, les arbres, qui nous paraissent plus proches, les animaux, eh bien ce sont des degrés de parenté. Et donc d'une certaine façon, Darwin nous a rendus proches d'un point de vue généalogique, nous a rendus cousins, parents plus ou moins éloignés, de l'ensemble de la nature qui nous entoure.
Deux éléments, donc le continuisme darwinien. Au fond, il n'y a pas de solution de continuité entre le règne humain et le règne naturel. Premier élément important à poser quand même. Et donc, à cet égard, pas d'exception humaine dans le règne naturel, ce qui distingue d'emblée Darwin de ceux qui, par exemple, à la suite de Descartes, croient rompre avec la théologie de leur temps en reconduisant à leur insu, finalement, la centralité de l'homme au sein du règne naturel. Darwin n'est pas cartésien.
Oui, tout à fait. C'est un peu comme ce qui se passera pour le vitalisme. C'est-à-dire, il y a une exception de la vie par rapport à la matière inerte dans la mesure où elle n'est pas semblable. Il y a une exception de l'être humain par rapport au reste de la nature dans la mesure où nous sommes humains. Mais ce statut n'est pas dû à une forme de naissance particulière ou exceptionnelle. C'est simplement ce qui a émergé des métamorphoses du monde et dans la théorie darwinienne en ce qui concerne l'ensemble du monde vivant, ce qui a émergé à partir de quelques ou d'un ancêtre originel très simple. Et je crois que c'est assez rare que la biologie, la pensée dans les sciences du vivant, a énormément bénéficié des avancées dans d'autres domaines scientifiques, la physique, la chimie. Et la théorie darwinienne est peut-être un des rares exemples où une révolution dans le domaine des sciences du vivant a eu des répercussions indirectes et lointaines en physique et en astrophysique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Darwin propose la parenté et la généalogie commune de l'ensemble des êtres vivants, eh bien, pour les astrophysiciens, l'univers est immobile. Immobile depuis son début. Donc le vivant n'a cessé de se métamorphoser, de se transformer, mais dans un univers immobile. Et 80 ans après l'apparition de l'origine des espèces, Georges Lemaître et d'autres découvriront, inventeront les métamorphoses de l'univers. Ce sera la théorie du Big Bang. Et donc, d'une certaine façon, la pensée darwinienne non seulement nous a rendus parents de l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, mais nous a rendus parents plus lointains des étoiles et des galaxies.
Ce qui veut dire que dans l'ordre des postérités différentes darwiniennes, des différentes postérités darwiniennes, qui incluent d'ailleurs les dévoiements de sa pensée dont on va parler, hein, Jean-Claude Amezen, dévoiements caricaturaux, sous le régime desquels d'ailleurs nous vivons encore, quand on ne sait pas exactement ce qu'il raconte, il y a donc dans cette postérité, il y a également une façon de faire, une méthode.
Une façon de voir le monde, une façon d'essayer d'expliquer, de comprendre le monde.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous la qualifieriez ? Est-ce que c'est une discipline de l'émerveillement ? Est-ce que c'est une aptitude à sous-tendre le phénomène ou à traquer sous le phénomène la cause ou l'origine perdue dont il témoigne ? Quel rapport ou quelle utilisation fait-il de l'étonnement ? Et enfin, pourquoi cet homme, à la fin de sa vie, choisit-il de travailler sur les vers de terre ?
Alors, beaucoup de questions. Ouais. La première, je crois que c'est une façon de voir, c'est un pont. C'est un pont entre une représentation très ancienne de l'univers, pré-socratique, qui est un univers en perpétuelle émergence, un univers contingent, un univers qui naît et se métamorphose parce que les éléments qui composent la matière se réassocient de toutes les manières possibles. Et donc c'est une vue un peu émerveillée, c'est la vue de Lucrèce dans De Natura Rerum, un univers qui ne cesse de s'inventer. Et le grand problème de cette vision très ancienne, c'est qu'elle est très belle, mais elle ne permet pas d'expliquer, en particulier en ce qui concerne le monde vivant, le mystère de l'adaptation. Comment se fait-il que chaque être vivant, si chaque être vivant est apparu par hasard, soit adapté à son environnement et que les différentes parties de son corps soient adaptées les unes aux autres ? Et c'est ce que cette vision du monde, qui est une vision merveilleuse, qui est changeante, qui est étonnante, ne parvient pas à expliquer.
Elle a la vertu de détruire le finalisme, mais l'inconvénient du coup de ne pas réussir à expliquer comment les hommes sont ainsi faits, ou les êtres vivants sont ainsi faits, qu'ils donnent le sentiment d'être faits pour ce qu'ils font.
S'il n'y a pas de finalisme, s'il n'y a qu'un mélange de hasard et de contraintes, de contingences et de lois de la nature, comment expliquer l'adaptation ? La meilleure explication, l'explication la plus simple, c'est en fait qu'il s'agit d'une certaine façon d'un projet. Si les êtres vivants sont adaptés à leur environnement, c'est qu'ils ont été conçus, créés, pensés de cette manière. Et donc l'intentionnalité, la notion de finalité, la notion de projet expliquent magnifiquement l'état du monde vivant et d'une certaine façon l'état de l'univers.
Est-ce que vous diriez que l'intentionnalité, l'idée de providence divine, au fond, est une invention ad hoc de la science pour justifier ou légitimer un état de fait ?
Non, je crois que c'est une représentation d'une forme d'harmonie du monde, un reflet d'un ordre, d'une organisation du monde dans lequel la science a puisé. Je pense pas. Donc la science a puisé, ça a été d'ailleurs ce qui, au moment de la jeunesse de Darwin, se développait en Angleterre, sous le nom de théologie naturelle. Comprendre le monde vivant était une œuvre scientifique, classer les espèces, comprendre leurs différences et leur proximité, et en même temps, c'était œuvre théologique, parce que ça permettait en fait de comprendre, d'approcher le dessein divin.
Comme les hommes trouvent en eux-mêmes et hors d'eux un grand nombre de moyens contribuant grandement à l'atteinte de l'utile, ainsi par exemple des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des herbes et des animaux pour l'alimentation, le soleil pour s'éclairer, la mer pour nourrir des poissons, ils en viennent à considérer toutes les choses existantes dans la nature comme des moyens à leur usage. Sachant d'ailleurs qu'ils ont trouvé ces moyens, mais ne les ont pas procurés, ils ont tiré de là un motif de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a procurés pour qu'ils en fissent usage. Ils n'ont pu, en effet, après avoir considéré les choses comme des moyens, croire qu'elles se sont faites elles-mêmes. Mais tirant leur conclusion des moyens qu'ils ont accoutumés de se procurer, ils ont dû se persuader qu'il existait un ou plusieurs directeurs de la nature, doués de la liberté humaine, ayant pourvu à tous leurs besoins et tout fait pour leur usage. N'ayant jamais reçu au sujet de la complexion de ces êtres aucune information, ils ont dû aussi en juger d'après la leur propre. Et aussi ont-ils admis que les dieux dirigent toutes choses pour l'usage des hommes, afin de se les attacher et d'être tenus par eux dans le plus grand honneur. Par où il advint que tous, se référant à leur propre complexion, inventèrent divers moyens de rendre un culte à Dieu, afin d'être aimés par lui par-dessus les autres, et d'obtenir qu'il dirigeât la nature entière au profit de leur désir aveugle et de leur insatiable avidité. Jean-Claude Amezen est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi au commencement d'une semaine sur Darwin, c'est-à-dire au commencement d'une semaine sur le commencement. Alors, ce qui est merveilleux avec ce texte qui n'est pas de Darwin mais qui aurait pu être de Darwin en un sens, Jean-Claude Amezen, s'il n'avait été écrit 200 ans avant lui, c'est un texte de Spinoza dans l'appendice de la première partie de l'éthique. C'est quand en 10 lignes on va de la caverne à l'asile de l'ignorance, c'est-à-dire à un dieu transcendant. Les hommes ont pensé que les yeux étaient là pour voir, résultat, ils ont créé un dieu qui, le leur rendant bien, en raison de leurs offrandes, se soucie de leur propre avidité, de leur désir aveugle.
Alors, 16 siècles avant Spinoza, Lucrèce disait la même chose. Hein. Ouais. Il y a une erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est de penser que les yeux ont été créés, sont apparus pour permettre de voir. Les yeux sont apparus et il en a résulté la capacité de voir.
On a inversé la cause et l'effet. Voilà, le finalisme met la cause avant l'effet, au fond.
Tout à fait. Et le finalisme peut être soit d'ordre du projet, de l'intentionnalité, soit ce que Lucrèce critique, comme chez Aristote, de l'ordre de la cause finale. C'est-à-dire, c'est ce vers quoi on va qui explique ce chemin. Et donc, cette idée qu'on ne peut pas mettre la cause après les faits, est une idée très ancienne. Ce que Darwin va faire, c'est faire un pont, je dirais, entre la grande démarche qui naît en Angleterre, qui est née un peu avant dans la Renaissance italienne, mais qui est illustrée par Newton, trouver des lois naturelles, expliquer des phénomènes par des systèmes de causalité, par des contraintes. Et il va essayer de comprendre si des lois simples peuvent faire du mystère de l'adaptation non pas le résultat d'une intention, mais un phénomène après coup.
Au fond, il remplace le mystère d'une providence par l'énigme d'une loi aveugle.
Tout à fait. Et pose que l'adaptation est un phénomène inévitable qui est une conséquence d'autre chose et qui n'est nulle part prévue ou prévisible. Et donc, d'une certaine façon, il va faire le lien entre la recherche de lois naturelles, et puis cette vision lucrétienne, très ancienne, pré-socratique, d'un monde qui ne cesse de se métamorphoser. Il dira lui-même, d'ailleurs, à partir du moment où il commence son voyage autour du monde, et où il croyait à la théologie naturelle. Il pensait que la théologie naturelle, que William Paley, ça expliquait magnifiquement l'harmonie du monde.
William Paley, c'est celui qui trouve une montre et qui déduit l'existence de l'horloger.
Voilà, qui dit, si vous trouvez une montre sur le sable et la plage, c'est que vous savez bien qu'il y a un horloger qui l'a construit, et donc si vous voyez des animaux, des arbres, eh bien c'est qu'ils ont été conçus et créés de la même façon que une horloge
une sorte
ou une
de
machine.
Théisme un peu voltairien, finalement. Hein,
oui, et donc il y a cette idée que, encore une fois, il n'y a pas de mystère dans l'adaptation. Et Darwin, au cours de son voyage, va être bouleversé parce que la nature qui lui apparaît dans les continents lointains ne lui paraît pas conforme avec cette idée d'une harmonie préexistante et immuable. Et il va écrire, oui, il semble bien au fond que la nature a évolué, soit métamorphosée, mais tant qu'on ne trouve pas une loi qui permet d'expliquer comment ça se produit, au fond, ça sert à rien d'imaginer qu'elle a évolué. Et donc, toute sa réflexion va être, est-ce que l'on peut trouver des lois ? Et comme s'il s'agit de transformation, il s'agit, au fond, penser l'évolution, c'est penser que hier est différent d'aujourd'hui, et qu'avant-hier est différent d'hier. Et donc, ce que nous voyons autour de nous n'existait pas auparavant. Et donc, la grande idée, c'est que des lois, des causes, des forces qui sont en train d'opérer, mais dont les conséquences nous sont invisibles parce que les durées de nos vies et les durées de l'histoire humaine sont trop courtes, si elles opèrent pendant très longtemps, elles ont pu expliquer l'ensemble des transformations du vivant à partir d'une origine commune. Et donc, c'est des lois qui sont présentes, qui sont en train d'opérer autour de nous, qu'il va prendre comme levier pour essayer de penser l'évolution du vivant et de l'expliquer.
Alors reste à savoir évidemment donc quelle est cette origine commune et puis comment ces transformations s'opèrent sans effectuer de saut au fond, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement difficile, délicat en termes de rapport au temps chez Darwin, dans la mesure où il pense une transformation et il pense une transformation insensible, c'est-à-dire par degré, une transformation finalement quantitative qui débouche sur des différences qualitative, tout en disant que la nature ne fait pas de saut. Et donc il s'agit ici de penser un problème, le problème que se posera Bergson d'ailleurs un peu plus tard, qui est la question de savoir comment la succession produit un changement de nature. Quel regard faut-il avoir sur le monde et de quelle façon regarder le monde pour y voir aujourd'hui l'écho lointain, donc des longs échos, l'écho lointain dans les phénomènes d'aujourd'hui de transformations indéfinies dont il s'agit de rendre raison tout en récusant la possibilité que la nature fasse des sauts.
Alors, la notion de saut est une notion extrêmement ambiguë. Ce que Darwin pose, c'est qu'il y a continuité. Ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est que depuis 4 milliards d'années, la vie n'a jamais cessé, ne s'est jamais interrompue, et que donc, tout ce qui nous entoure est le résultat de successions généalogiques continues. Pour Darwin, pour des tas de raisons, et en particulier pour ses emprunts à la géologie de son temps, moins il y a de différences de génération en génération, plus elles sont petites, plus elles sont graduelles, et plus la continuité est évidente. Et donc pour lui, il y a une espèce d'enjeu. S'il y a continuité dans les transformations, eh bien elles doivent se faire petit à petit. C'est une de ses erreurs, c'est une des contraintes qu'il a pensées. La notion de saut est ambiguë. À partir du moment où on pense les sauts dans la continuité, eh bien il y a des transitions qui sont, toute proportion gardée, ça se passe sur des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, qui sont de l'ordre des sauts. Il y a des seuils qui sont franchis, à partir desquels des émergences se font qui sont très différentes de ce qui précède. Il y a une façon de le voir qui est, encore une fois, qui suit Darwin, c'est Wegener et la dérive des continents. Les continents, et ça mettra 50 ans, 60 ans avant d'être accepté, les continents bougent, nous ne le sentons pas, c'est quelques centimètres par an. Ces continents bougent très très lentement, continuellement, et puis il y a des moments où les plaques tectoniques se rencontrent, et à ce moment émergent des chaînes de montagnes. Ce sont des sauts par rapport aux petits mouvements continus, mais c'est inscrit dans une continuité permanente. Et ça, c'est quelque chose que Darwin n'a pas pensé. C'est-à-dire, oui, il y a continuité. Oui, il y a toujours quelque chose qui rattache le descendant à l'ancêtre. Mais ce qui émerge peut parfois être très différent de ce qui a existé pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Et donc, ce qui est vraiment important chez Darwin, c'est que les métamorphoses sont inscrites dans la continuité. Ce à quoi il tenait beaucoup, c'est que cette continuité était en permanence graduelle.
Alors, c'est dire aussi que chez Darwin, c'est véritablement une philosophie, je mets le mot entre guillemets, du temps. Et du temps long, c'est-à-dire d'un temps géologique, d'un temps que les moins de 100 ans, hein, ou les moins de 1000 ans même, ne peuvent pas connaître, d'un temps qui, par conséquent, nous voue à la spéculation, ce qui d'ailleurs a permis à un certain nombre de créationnistes de s'en prendre aux théories de Darwin, en expliquant qu'au fond, son propos relevait de l'archi fossile, hein, et de ce qu'il ne pouvait pas connaître. Alors, parmi les contempteurs du darwinisme, on est allé chercher, non pas chez ceux que vous décrivez dans votre livre, Jean-Claude Amezen, mais plus récemment chez Christine O'Donnell, alors que tous nos auditeurs ne connaissent pas, qui est une candidate républicaine cooptée par le Tea Party et la NRA, donc la National Rifle Association, qui, par ailleurs, jusqu'à son investiture par le Parti républicain, s'était fait connaître aux États-Unis comme une militante de l'abstinence sexuelle, et enfin, qui a reconnu avoir pratiqué la sorcellerie dans sa jeunesse. Alors elle est parfaite et elle dit notamment ceci sur le mythe de l'évolution, que l'évolution est un mythe, et l'argument qu'elle emploie à l'appui de sa thèse, c'est que on n'a jamais vu un singe se transformer en humain.
Evolution is a myth, and even Darwin himself.
Evolution is a myth.
You know what?
Have you ever looked at a monkey?
Well then why aren't monkeys still evolving into humans?
It takes a long time.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman.
Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde, c'est le livre de Jean-Claude Amezen, coédition Fayard Le Seuil.
Elle les approuve de deux ouïes, leur montre en commençant sans ennui. On les décroche de leur patère, la maman des poissons, elle a l'œil tout.
Alors, par-delà la sottise de l'argument invoqué par Christine O'Donnell pour expliquer que la théorie de l'évolution est un mythe, il y a quand même un renseignement très important là-dessus, c'est justement ce rapport au temps. Darwin, dans l'instant, est récusé par le sentiment d'immobilité que donnent les choses, le sentiment de stagnation que donnent les phénomènes, et même à l'échelle humaine ou à l'échelle tout simplement historique. Et donc il faut se situer à une autre échelle pour valider une théorie qui, par conséquent, empiriquement, trouve aussi un certain nombre de contre-arguments qui relèvent tout simplement d'un mauvais rapport au temps.
Oui, tout à fait. C'est un peu comme si cette dame disait qu'on n'a jamais vu une chaîne de montagnes émerger. Donc, les chaînes de montagnes sont là de toute éternité. La théorie de Darwin est en fait, elle est l'objet de beaucoup d'incompréhension. Elle est très simple. Ce que dit Darwin, c'est quelque chose que l'humanité connaît depuis son origine, c'est que les enfants sont en général légèrement différents des parents. Et cette légère différence, cette espèce de tremblement au long des générations, était pris comme un argument en faveur de l'immuabilité des espèces. Puisque ça bouge très peu, c'est que ça a toujours été immobile. Ce que dit Darwin, c'est qu'il y a une génération de diversité à chaque génération, ce qu'il appelle la descendance avec modification. Et puis, il faut voir que ce qui est intéressant, c'est que Darwin est un exemple, je dirais, de scientifique transdisciplinaire. Il va construire sa théorie, sa vision du monde, à partir d'éléments très différents. Il va prendre la géologie de son temps, Des petites forces opérant continuellement peuvent, sur des temps très longs, entraîner des modifications du relief de la Terre considérables. Mais à notre échelle, on ne voit pas grand-chose. On voit de l'érosion, on voit des petits phénomènes. Il va prendre des idées dans les économistes du XVIIIe siècle, Malthus, Adam Smith, la main invisible. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que ces petites modifications de génération en génération font qu'aucun enfant, dans aucune espèce, n'est strictement identique à ses parents, ni aux autres enfants. Et il va dire que, et ça il le tire de Malthus, que, en général, les ressources qui sont nécessaires pour faire naître des enfants sont inférieures à celles qui vont être nécessaires à ces enfants pour grandir, survivre et se reproduire.
Si un homme ne peut nourrir ses enfants, il faut donc qu'il meure de faim. C'est Malthus qui le dit, ça.
Alors, Malthus, non seulement dit, en général, moins de ressources qu'il n'y a de possibilités pour élever les enfants qui sont nés, mais Malthus, et ça sera d'ailleurs, c'est un des exemples des dérives violentes, tragiques, qui seront faites à partir de l'idée de Darwin après sa mort. Malthus lui-même, non seulement pense une vision du monde, principe de population, mais Malthus prescrit. Et Malthus dit, il y a en général trop peu de ressources pour tous ceux qui sont nés. Eh bien, une bonne façon, ça crée la pauvreté, dit Malthus, une bonne façon, prescrit-il, de lutter contre la pauvreté, c'est d'abandonner les pauvres à leur sort et à la mort. Donc, Malthus n'est pas simplement un scientifique, Malthus est quelqu'un qui tire de ce qu'il croit être la connaissance de la nature, des prescriptions en termes de conduite sociale, politique, et d'ailleurs, sa pensée sera très influente. Donc il y a quelque chose...
Puis le malthusianisme est brandi en général à l'appui de toute théorie considérant que nous n'avons pas assez de ressources, ou d'un partage des richesses, par exemple.
La théorie de Malthus, en ce qui concerne le monde, il y a toujours plus de descendants dans la nature qu'il n'y a de ressources. En gros, les descendants... les ressources croissent de manière arithmétique, les descendants de manière géométrique, donc il y a un déséquilibre, ça crée des catastrophes, mais Malthus, ça c'est sa vision du monde, mais Malthus prescrit de manière impitoyable, de manière extrêmement inhumaine, des conclusions en termes politiques de sa vision. Ce que Darwin retient, c'est cette idée de déséquilibre. Et donc, si tous les descendants sont légèrement différents les uns des autres, et si en général, très souvent, il n'y a pas assez de ressources pour que chacun puisse survivre et se reproduire, eh bien, il y aura ceux qui, par hasard, sont mieux adaptés à leur environnement, auront plus de probabilités de survivre et de se reproduire. Et donc, ce phénomène qui est un déséquilibre, ce qu'il a appelé la lutte pour l'existence, et la variation à chaque génération, va produire sur des temps très longs, qui ne comptent pas en années, qui comptent en générations, en millions de générations, va produire quelque chose qui est un effet rétrospectif, après coup, qui est l'adaptation croissante pendant un temps des descendants à leur environnement. Et puis si l'environnement change, eh bien, il y aura extinction, il y aura disparition, et il y aura de nouveau émergence de la nouveauté. Donc ce qu'il voit, c'est sur des temps très longs, ce petit tremblement dans la variation de l'hérédité est le moteur à partir duquel se construit en permanence sur des temps longs la nouveauté. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il comptait en termes de génération le monde des micro-organismes, le monde des bactéries, le monde des organismes unicellulaires, lui était inconnu. Il était découvert de son vivant. Il l'émerveillait d'ailleurs. Darwin disait, tiens, je découvre que tout animal est un microcosme empli de petits organismes qui se multiplient, qui se reproduisent et qui sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Donc pour lui, il a pensé les animaux et les plantes, il n'a pas pensé le micro-organisme. Mais là où une génération humaine, par exemple, est de 25 ans, eh bien une génération de bactéries qui se reproduit toutes les 30 minutes est de 30 minutes. Ce qui veut dire que 25 ans, pour certaines bactéries, c'est 400 000 générations. Et donc la nouveauté émerge plus vite dans le monde des organismes unicellulaires qu'elle n'émerge chez les animaux et les plantes. Don't you all fade away? Don't
trying to dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation.
Jean-Claude Amezen, est-ce qu'au fond la différence entre Darwin et Malthus ne vient pas du fait que, bon, on a compris comment Darwin pouvait s'inspirer du propos de Malthus, sauf que Malthus est dans une démarche normative, il ne fait pas que décrire un phénomène ou un déséquilibre, il propose des solutions, et il est à cet égard dans une démarche normative qui s'inscrit d'ailleurs à l'échelle de l'espèce. Au fond, on peut sacrifier certains, il est dans une forme d'utilitarisme, au fond, on sacrifie certains si ça garantit la survie du plus grand nombre. Darwin donne le sentiment dans ses travaux et dans son rapport, par exemple, à l'esclavage, non pas de se contredire lui-même, mais au fond, le scientifique tel qu'il est justifie ou légitime, explique le monde par le biais de la sélection naturelle, de la loi du plus fort, qui repose sur le principe d'hérédité, le principe de population, la loi de descendance avec modification. Enfin, Darwin explique le monde de cette manière, mais il n'en tire pas une morale. Il aurait même plutôt tendance à tirer la morale inverse. On va parler d'ailleurs cette semaine de la question de savoir si au fond la lutte de Darwin contre l'esclavage ou contre l'injustice, ou la façon, le dégoût que lui inspire l'injustice, ne vient pas également, n'est pas une certaine forme d'avatar de la loi de sélection naturelle appliquée elle-même à la morale. Mais laissons cela de côté. Revenons juste sur cette différence de niveau chez Darwin. À l'échelle de l'espèce, on pense la sélection naturelle. À l'échelle de l'individu, on ne peut pas s'en tenir là.
Oui, Darwin essaye d'expliquer le monde vivant. Darwin essaye d'expliquer comment le monde vivant qui nous entoure est apparu.
C'est donc il y a bien une exception humaine chez Darwin.
Alors, l'exception humaine chez Darwin tient à la manière dont l'espèce humaine a émergé. Et donc, pour reprendre ce que vous disiez, Darwin s'intéresse à ces mécanismes, ce qu'il appelle la sélection naturelle, c'est justement que, en fonction de l'adaptation aléatoire à l'environnement dans lequel naît par hasard un individu, il aura plus de probabilité ou moins de probabilité de survivre et de se reproduire. Il y a un monde vivant inconscient, le monde des plantes. Et puis, il y a un monde vivant qui va faire émerger la conscience. Question qui préoccupe quant à l'origine de cette conscience, Darwin, hein, il dira que l'émergence de la conscience chez certains animaux est aussi mystérieuse que l'émergence de la vie par rapport à la matière.
Mais comment est-ce qu'il ne l'interprète pas comme un saut, ça ?
Alors, parce qu'il le voit, là encore, comme quelque chose de progressif, hein, par petites étapes. Mais ce que je voulais dire, c'est que Darwin va considérer que le nombre considérable d'individus qui meurent à chaque génération et que les extinctions que subissent des espèces, à partir du moment où des animaux conscients ont émergé, sont une tragédie. Et donc il y aura, je dirais d'une certaine façon, un lien qui va apparaître au cours de l'évolution, un mécanisme aveugle, impitoyable, et puis la conscience, la sensation de souffrance, les sentiments, les émotions. Et il verra, à ce moment, cette loi comme étant une loi qui est tragique. C'est un des éléments qui lui fera perdre la foi pour lui en un créateur bienveillant. Et donc, dans cette souffrance que créent les contraintes, les lois qui font émerger la nouveauté, il verra quelque chose qui est de l'ordre d'un scandale moral. Et lorsqu'il s'interrogera sur l'émergence de l'humain à partir d'animaux, de primates non humains...
Sa propre théorie lui donne le sentiment d'un scandale moral.
Tout à fait.
Fait l'effet d'un scandale moral.
Tout à fait. Et le scandale moral apparaît lorsqu'émerge la conscience, c'est-à-dire la capacité de ressentir. Et lorsque vous dites la loi du plus fort, Darwin ne dit pas la loi du plus fort. Darwin dit la survie et la reproduction de celui qui, par hasard, est adapté à son environnement. Il écrira et il montrera que cette survie peut être aussi bien favorisé par ce qu'il appelle des guerres de la nature, des combats, que par des phénomènes de coopération. C'est-à-dire que tout ce qui, par hasard, a favorisé la survie et la reproduction, eh bien, a été un élément de la lutte pour l'existence. La survie du plus fort ou du plus apte est quelque chose qui ne fait pas partie, en tant que tel, de la pensée darwinienne.
En revanche, l'idée que toute la nature est en guerre est une idée qui gouverne toute sa démarche, hein, puisque c'est au chapitre 3 de l'origine des espèces. Toute la nature est en guerre, il y a une conception agonistique du règne naturel chez Darwin.
Mais dans l'origine des espèces, l'accent est mis sur ce qui est de l'ordre de la guerre. Dans la généalogie de l'homme, qu'il écrira 12 ans plus tard, l'accent est mis sur les phénomènes de coopération qui ont permis la survie. Et pour lui, ce qui va amener l'émergence de l'homme, c'est tous les phénomènes, ce qui pour lui est le propre de l'homme, encore qu'il considère que ça n'est pas spécifique à l'espèce humaine, mais que c'est là que le degré le plus important existe. Il dira que tout ce que nous considérons comme étant spécifiquement humain est partagé par d'autres animaux. Et que ce que nous considérons comme spécifiquement humain, dira-t-il dans plusieurs chapitres, est une question de différence de degré et pas de nature. Mais pour lui, ce qui nous fait émerger, ce qui fait émerger beaucoup d'espèces animales dont nous sommes assez proches, ce sont l'expression des émotions et le partage des émotions. C'est donc cette capacité à la fois de ressentir le monde et de ressentir les autres. Et dans ce cadre-là, je dirais le caractère aveugle des lois de la nature lui apparaît comme un scandale vis-à-vis duquel la coopération, le souci de l'autre, l'entraide est une espèce de réponse qu'ont apporté un certain nombre d'êtres vivants et nous-mêmes à cette contrainte, à ce monde, je dirais, brutal et dur. Donc il y a quelque chose. Il écrira à un moment, d'ailleurs à un ami, que l'œuvre de la nature, les lois de la nature, lui apparaissent comme un livre qu'aurait pu écrire un chapelain du diable. Donc on voit qu'il y a chez lui quelque chose qui se révolte contre le fait que ce qu'il appelle l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est-à-dire l'ensemble de la splendeur du vivant, ait émergé à partir de mécanismes qui créent de la destruction et donc de la souffrance lorsque les êtres vivants deviennent conscients.
Et qui surtout la créent aveuglément. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas à la destruction qu'ils créent un autre sens ou n'en font pas les symptômes d'une intention. Il y a un épisode dans la vie de Darwin, dans la biographie de Darwin, qui concentre toutes ces contradictions, je mets le mot ici entre guillemets, disons, cette contradiction entre ce qu'il découvre, ce qu'il ne peut pas ne pas savoir, et qu'en honnête homme il admet, et ce qu'il ne peut pas ne pas penser, c'est-à-dire qu'en homme de morale, il récuse. C'est l'épisode du voyage du Beagle, comme on dit, c'est le nom du bateau, entre 1831 et 1836, le capitaine Robert Fitzroy recherchait un naturaliste pour voyager dans une expédition destinée à explorer les côtes sud-américaines et les îles des mers du Sud. C'est Darwin qui occupera le rôle du naturaliste. Il fera d'abord là-bas d'infinies découvertes. C'est à ce voyage que l'on doit la postérité des six fameuses tortues des Galapagos. Mais c'est également dans ce voyage qu'il assistera à des scènes d'esclavage qui lui soulèveront le cœur. On va entendre Darwin lui-même, si j'ose dire, lu par notre ami Georges Claes, dont la voix nous accompagne toute la semaine, revenir dans son autobiographie sur l'épisode de ce voyage.
C'est maintenant que, regardant en arrière, je peux saisir à quel point mon amour de la science a petit à petit pris le pas sur tous mes autres goûts. Pendant les deux premières années du voyage, ma vieille passion pour la chasse subsista dans presque toute sa vigueur et je tirais moi-même les oiseaux et les animaux à collecter. Mais peu à peu, j'abandonnais mon fusil et le laissais finalement à mon serviteur, car la chasse interférait avec mon travail et plus spécialement avec le relevé de la structure géologique des lieux. Je découvris, quoique inconsciemment et insensiblement, que le plaisir d'observer, de raisonner, l'emportait de beaucoup sur celui de l'adresse et du sport. Les instincts primitifs du barbare cédèrent lentement la place aux goûts acquis de l'homme civilisé. Que mon esprit se soit développé au cours du voyage me paraît probable, si j'en juge d'après une remarque de mon père, l'observateur le plus aigu que j'ai jamais vu, pourtant sceptique par nature et loin d'être un dévot de phrénologie. Lorsqu'il me revit pour la première fois, après le voyage, il se tourna vers mes sœurs et s'exclama « Tiens, la forme de sa tête a complètement changé !»
Thank you.
C'est pas la forme de sa tête qui a changé, comme le pense le phrénologue, hein, en l'occurrence, mais c'est l'intérieur de sa tête. C'est ce qu'il y a dedans. C'est ce voyage qui l'emmène des plaines de Patagonie jusqu'à Bahia, en passant par l'océan Indien. C'est ce voyage extraordinaire qu'il fait et qui lui vaut donc à la fois de découvrir l'injustice humaine et de poser les linéaments de ce qui s'appellera plus tard la loi de sélection naturelle, Jean-Claude Amezen.
Oui, c'est de découvrir le monde, hein, découvrir à la fois ce qu'il interroge. C'est un voyage de questionnement de ce qu'on sait de ses écrits, y compris de ses écrits secrets. Il ne commence à élaborer sa théorie, c'est-à-dire l'explication de l'évolution du vivant, qu'à son retour en Angleterre. Et il élabore très vite. En 2 ans, il aura pensé l'essentiel de sa théorie. Il se taira pendant 20 ans. Il se taira pendant 20 ans, en particulier parce qu'il a peur des bouleversements philosophiques, religieux, sociaux, qu'une théorie de ce type, qui d'une certaine façon place l'être humain comme une émergence tardive et aveugle de l'évolution, peut provoquer dans la société. Mais c'est un questionnement, c'est un émerveillement. Il parlera des jours merveilleux, il y a des pages magnifiques dans son journal du Beagle. Il recommande à tout le monde, d'ailleurs, à la fin de son livre de voyage, il recommande à tout le monde d'aller partir vers ces continents lointains, parce qu'on y découvre des mondes fabuleux. Et puis, il y découvre les injustices. Il découvre au Brésil l'esclavage. Il se révolte contre l'esclavage, et il se révoltera pendant toute sa vie, pendant l'esclavage, contre l'esclavage. Il découvre plus tard, 2 ans plus tard, en Australie, en Nouvelle-Zélande, la disparition des aborigènes. Et il va se révolter contre les ravages de la colonisation.
Le dernier Tasmanien.
Il écrira « Partout où l'Européen pose le pied, la mort semble poursuivre l'aborigène ». Et puis, il luttera aussi, et dès son voyage, contre le racisme. Et donc, d'une certaine façon, ce que nous dit Darwin, pour dire les choses très schématiquement, c'est que nous avons émergé par hasard, tardivement, d'un foisonnement de nouveautés du vivant, mais que ce qui est d'ordre moral n'est pas inscrit dans un projet, n'est pas inscrit dans une finalité, il est de l'ordre de notre responsabilité. Et donc il va à la fois, je dirais, sortir l'émergence de l'être humain de toute idée de projet qui viendrait avec une prescription en termes de comportement. L'émergence s'est faite par hasard, mais il va donner à l'être humain la responsabilité de construire une morale. À partir, d'ailleurs, il est très influencé, je vous disais qu'il était influencé par la richesse des nations d'Adam Smith, au fond, les activités que chacun fait...
Mais aussi sa théorie des sentiments moraux.
C'est ce que j'allais dire, hein, c'est-à-dire les activités que chacun fait conduisent à des effets que personne n'imaginait, donc il y a des effets globaux, indépendamment des activités individuelles, mais par la théorie des sentiments moraux, et la sympathie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, la règle d'or, dit Darwin, des comportements humains, c'est ce que tu voudrais que d'autres te fassent, fais-le aux autres. Et donc c'est l'émergence d'une morale qui ne peut venir que de nous, et qui doit justement nous imposer une responsabilité non seulement entre êtres humains, dont il dit qu'elle est très difficile. Il écrira que lorsque des êtres humains sont séparés par de grandes différences d'apparence ou d'habitude, on dirait aujourd'hui physique ou de culture, combien le temps est long avant qu'ils ne se considèrent comme des semblables. Donc il y a cette idée que l'égalité et le souci de l'autre doit être la préoccupation morale humaine, mais il y a aussi un souci vis-à-vis de la nature, ce qu'il appelle l'élargissement du cercle de sympathie, et il écrira que, ce que disait Bacon, plutôt que jamais autant qu'aujourd'hui n'est vraie la phrase « la connaissance est du pouvoir », et que nous avons acquis, nous, humains, une telle maîtrise de la nature qu'il est probable que dans l'avenir, nous allons faire disparaître l'ensemble des animaux et des plantes, sauf ceux et celles que nous garderons dans des jardins zoologiques et dans des jardins. Donc il y a l'idée non seulement que nous devons construire une morale à l'échelle humaine, mais que nous devrions avoir le souci de cette nature sur laquelle nous avons de plus en plus de méprise, qui nous a donné naissance et qui nous est vitale. Donc il y a, contrairement à ce que feront beaucoup d'héritiers de Darwin, qui est de déduire de la théorie de l'évolution des règles de conduite inhumaines, l'eugénisme, le darwinisme social, le darwinisme racial, la stérilisation forcée des personnes, il y a au contraire chez Darwin une dissociation entre ce qui nous a donné naissance et la manière dont, en tant qu'êtres humains, nous devrions nous conduire.
Ce qui prouve qu'il faut être un humaniste et ô combien pour humilier à ce point l'homme dans l'ordre du règne naturel et l'élever donc dans l'ordre du règne moral, au fond. Hein. Il y a au-delà du règne naturel sorte de règne de la liberté.
Ça n'était pas une humiliation dans ses carnets secrets. Le jeune
Qu'est-ce
Darwin
qu'il vous
écrit,
faut quand même expliquer
le jeune
que...
Darwin écrit « Mais l'être humain, le merveilleux être humain, est une exception. » Et trois lignes plus bas, il écrit « Non, il n'est pas une exception, mais c'est le merveilleux être humain. » ce que Freud appellera la blessure
grand humiliateur, oui, bien sûr.
Hein, c'est Copernic, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Darwin, nous sommes une émergence tardive. Et puis, de manière très immodeste, Freud dira, et la dernière blessure narcissique, c'est celle que j'ai infligée en disant que la majorité de nos... l'essentiel de nos actes sont inconscients. Mais il n'y a pas chez Darwin, je crois que chez Darwin, la découverte que j'évoquais tout à l'heure de la parenté, c'est-à-dire nous n'avons pas de statut spécial, mais nous sommes parents avec l'ensemble des êtres qui nous entourent, et avec l'ensemble des êtres humains, à une époque où la hiérarchisation des peuples et des races humaines était une activité majeure. Pour Darwin, il n'y a pas de hiérarchie. Pour Darwin, il y a une parenté de tous les êtres humains, et il y a une parenté plus lointaine avec la nature. Et donc, ce qui a été vu par beaucoup comme une humiliation est pour lui une source d'émerveillement. Avec, je dirais, cette nécessité supplémentaire, si notre devoir n'est écrit nulle part, eh bien c'est à nous de l'inventer.
Il faudrait revenir sur l'émerveillement chez Darwin. On aura l'occasion de le faire toute cette semaine, notamment en lisant les dernières pages de l'Origine des espèces. Un grand merci Jean-Claude Amezen d'être venu nous parler de Darwin. On va laisser à Darwin le dernier mot. C'est dans l'autobiographie de Darwin. Étonnante prédiction de Darwin qui se demande si... qui pense quand même que son nom devrait rester connu encore quelques années, pendant quelques années. C'est lui qui le dit, l'avenir effectivement l'a dit. On va terminer avec ça et avec aussi le regret de n'avoir pas évoqué par exemple la figure de Lamarck. On a à peine évoqué la figure de Paley. On aura toute cette semaine...
La figure de Wallace.
La figure de Wallace, le concurrent en un sens.
Le co-découvreur.
Et le voilà. Co-découvreur avec Darwin du principe de sélection naturelle. Écoutons Darwin, son autobiographie.
Bien vendu en Angleterre, mes livres ont été traduits dans de nombreuses langues et ont connu plusieurs éditions à l'étranger. J'ai entendu dire que le succès d'un livre à l'étranger est le meilleur signe de sa valeur réelle. Je doute que cela soit tout à fait vrai, mais si c'était le cas, mon nom devrait rester connu pendant quelques années. Il peut donc être utile de tenter l'analyse des qualités mentales et des causes de ce succès, bien que je sache que nul ne soit à même de le faire correctement. Je n'ai pas cette remarquable rapidité de compréhension qu'ont certains hommes intelligents, comme Huxley par exemple. Je suis donc un mauvais critique. À la première lecture, un article ou un livre excite généralement mon admiration, et ce n'est qu'après une longue réflexion que j'en perçois les points faibles. Ma capacité à suivre un long raisonnement purement abstrait est très limitée. Je n'aurais jamais pu briller en métaphysique ni en mathématiques. Ma mémoire est vaste mais vague. Il suffit pour me faire douter de me dire vaguement que j'ai lu ou observé quelque chose d'opposé à la conclusion que je suis en train de tirer, ou au contraire, en sa faveur, et je suis alors capable, en général, au bout d'un moment, de me rappeler où je dois chercher cette référence. Mais un autre type de mémoire est chez moi très déficient. Je n'ai jamais pu me rappeler plus de quelques jours une date ou un vers appris par cœur. Certains de mes critiques ont dit « Oh, c'est un bon observateur, mais il n'a pas de grande capacité de raisonnement ». Je ne crois pas que cela soit vrai, car l'origine des espèces n'est qu'une longue argumentation du début à la fin, et elle a convaincu plus d'un homme compétent. Personne n'aurait pu l'écrire sans une certaine puissance de raisonnement. J'ai ma part d'imagination, de sens commun et de raison, au même titre qu'un médecin ou un juriste qui a réussi. Mais je n'en ai pas davantage.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison.
Dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde, c'est le livre de Jean-Claude Amezen qu'on va découvrir bientôt en point seuil. Bientôt disponible, c'est cette semaine que ça paraît. Oui. C'est un effet du hasard, enfin, si j'ose dire.
Rien dans les poches, rien dans les manches, Darwin avait raison.
femme à deux têtes. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain, Darwin avait raison.
C'est le mot de la fin pour aujourd'hui. Tout de suite, le journal des Nouveaux Chemins avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. La querelle autour de Darwin est un feu de prairie qui n'est pas près de s'éteindre, mais son écran de fumée tend à masquer les extraordinaires transformations survenues dans ce qu'on peut appeler la construction des corps. Par quoi et par qui notre corps est-il façonné ? Selon quelles normes et quelle part de liberté avons-nous par rapport à la forme que nous donnons à notre corps ? Le bodybuilding, c'est le programme du jour. Bonjour Thierry Hoquet.
Bonjour Adèle.
Bonjour, vous êtes philosophe et c'est vous qui avez dirigé le numéro 764-765, un double numéro donc de la revue Critique, qui porte ce titre intrigant donc de bodybuilding, ce titre « L'évolution des corps ». Alors le terme même de bodybuilding peut faire sourire, hein, mais en réalité, si on l'entend de manière littérale, il signifie le fait de donner une forme à son corps, de le sculpter, de le façonner. Il y a des dizaines de façons hein, de le faire, ainsi qu'autant de causes qui peuvent engendrer un tel désir de façonner son corps. Et le bodybuilding, au fond, c'est ce qu'on comprend en lisant l'introduction que vous avez faite à ce numéro, ainsi que les différentes contributions, c'est le fait de s'intéresser aux causes et aux facteurs qui façonnent notre corps, tant notre désir de le changer, que la contrainte sociale extérieure. Thierry Hoquet.
Oui, alors au niveau de la contrainte et au niveau de la liberté, d'ailleurs, il y a plusieurs candidats. Il y a les candidats qui viennent de la biologie, qui racontent la construction du corps, par exemple, à partir d'un Lego de construction, un programme qui serait ancré dans les gènes. Mais il y a aussi les tenants de la liberté ou de la plasticité sociale du corps qui pensent qu'on pourrait tout reformer à partir de notre propre volonté. On a ces deux tendances qui se croisent dans, on pourrait dire, le marché biotechnologique qui propose d'acheter un corps façonnable à volonté. Donc on a un gros débat qui nous met en face à face la nature et la culture qui rivalisent pour nous raconter la manière dont nos corps ont été construits ou peuvent être construits à l'avenir et qui nous propose aussi un domaine de liberté, c'est-à-dire quelle est notre marge d'intervention, finalement, dans la construction des corps. Alors, la construction, déjà, c'est un terme qui est problématique, puisque, effectivement, ça suggère une sorte de Lego un peu mécanique. Et en biologie, il y a des modèles concurrents qui sont proposés pour expliquer le problème ancien qu'on trouvait déjà formulé chez Aristote, de la forme. Finalement, comment est-ce que nos corps prennent forme ? Eh bien, sur cette question-là, la biologie a plusieurs types de réponses à nous apporter. Et de l'autre côté, des critiques venues de la société, et en particulier du féminisme, contestent les récits de la biologie, contestent même le contenu des concepts biologiques comme étant des manières de nous ancrer dans une destinée.
Donc dans le terme de bodybuilding, en fait, il faut entendre un enchevêtrement entre la biologie d'un côté et la politique de l'autre.
Alors c'est ça qu'on a voulu faire dans ce numéro, c'est-à-dire faire se rencontrer des gens qui se parlent de moins en moins, à savoir les biologistes et les féministes. Donc ça donne à ce numéro un côté bifrons, on pourrait dire, entre d'un côté les tenants d'une critique des concepts biologiques et de l'autre les récits par lesquels la biologie veut ancrer nos corps dans une destinée héréditaire transmise de génération en génération, et ça rejoint le thème de Darwin. En particulier, le thème de Darwin, il peut se présenter aussi bien sur la question de la sélection naturelle, la manière dont les gènes ont été sélectionnés génération après génération. Et de l'autre côté, il y a un thème très important qui est le thème de la sélection sexuelle, c'est-à-dire comment les préférences des individus ont pu façonner certains caractères. Alors le cas le plus classique, c'est celui de la queue du paon, hein, qui est en apparence inutile et bien encombrante, et qui en même temps a été sélectionné, traduisant donc une sorte d'avantage à la reproduction qui reste à déterminer.
Donc en fait, la pensée même de Darwin renvoie à toute une pensée de la plasticité du corps.
Alors la plasticité, oui, au sens où il y a, dans l'origine des espèces, l'affirmation que tout dans nos corps, mais également dans nos comportements, est plastique, c'est-à-dire est sujet à être transformé au cours du temps. Mais malgré tout, la biologie est principalement interpréter en termes de d'hérédité, c'est-à-dire d'un héritage lourd à porter parce qu'il est garant d'une utilité. Les caractères qui ont été sélectionnés étaient les caractères utiles. Alors là-dessus, il y a une formule intéressante de Franck Sézilly dans le numéro qui nous dit « Il y a une harmonie remarquable entre des critères esthétiques, sanitaires et érotiques » sur la définition de ce qu'on appelle le beau corps, en fait. Le beau corps, le corps sain, c'est également le corps désirable. Et donc, il y a l'idée que peut-être c'est le corps qui a été sélectionné par l'évolution comme le corps le plus apte à survivre, mais également que nos préférences esthétiques pour ce corps-là auraient été façonnées par l'histoire.
Il y a un cas particulier que vous prenez qui est abordé dans ces contributions-là et qui permet d'éprouver la thèse même du bodybuilding, c'est le transsexualisme, où vous montrez que la chirurgie, en fait, combinée aux prises d'hormones, peut produire des corps inouïs, mais qui sont aussi l'affaire de souffrances sociales et de rêves poursuivis en réalité. C'est vraiment au croisement là des deux.
Alors, il y a un très bon article de Laurent Serrault, effectivement, dans le numéro là-dessus. Le transsexualisme, on l'a souvent interprété en termes de conformation ou de conformité à une norme de genre. C'est-à-dire, il fallait rendre un corps ressemblant à ce qu'il était, à ce qu'était la personne en réalité. Et ce que montre Laurent Serrault, c'est qu'aujourd'hui, avec l'exemple du mari enceint, donc l'homme qui a porté son enfant, le cas donc de Thomas Beattie, à partir de cet exemple-là, on voit que finalement, on a des corps qui sont hybrides, des corps où il y a des organes qui sont disponibles pour des fonctions et dont les individus peuvent s'emparer pour construire ou pour inventer une destinée originelle, une destinée inouïe. Donc, on voit que la pensée même du transsexualisme, elle s'est émancipée par rapport à l'idée qu'il y aurait des normes face auxquelles on devrait toujours se conformer. Voilà. Et donc on a une vision du corps qui est plus remplie d'intermédiaires, de mixtes, et c'est ce trouble qu'on a souhaité explorer dans le numéro.
Mais ce trouble précisément précède-t-il et appelle-t-il le besoin de reconceptualisation, ou au contraire est-ce que c'est le fait de pouvoir produire ces nouveaux concepts qui nous éveille à certaines réalités et peut-être nous rendre aussi plus libres dans ce rapport au corps?
Je crois que la manière dont on tend naturellement à formuler le problème, c'est-à-dire le face-à-face nature-culture, est un véritable obstacle à la pensée, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aussi bien dans le féminisme que dans la biologie, il y a tendance à enchevêtrer biologie et culture dans des systèmes plus complexes.
Merci beaucoup Thierry Hoquet. Donc je renvoie au numéro double de la revue Critique, janvier-février 764-765. Donc le titre de la revue, c'est Bodybuilding, l'évolution des corps, et on y trouve de nombreuses contributions. C'est vraiment très très intéressant. Merci d'être venu en parler aujourd'hui.
Darwin encore et toujours.
Eh bien oui, puisque Thierry Hoquet, que vous venez d'entendre, est également l'auteur d'un essai sur Darwin qui s'appelle Darwin contre Darwin, ou Comment lire l'origine des espèces. Donc ça peut se lire comme un manuel de lecture de l'origine des espèces qui part de la tension entre variation et sélection et qui autorise plusieurs manières d'être darwinien ou anti-darwinien au point de susciter des revendications paradoxales. Et on remarque qu'il y a une posture commune entre darwiniens et non-darwiniens pour défendre leur position. Ils jouent tous Darwin contre Darwin. Et ça s'appelle donc Darwin contre Darwin. Comment lire l'origine des espèces? Et on trouve ça au Seuil. Et j'en profite également pour annoncer le nouveau numéro de la revue Critique de ce mois-ci, qui lui portera sur François-Julien Retour de Chine. Et on y trouve des contributions de Mathieu Pottebonneville, Martin Rueff et Daniel Mouliou.
Après André Gide et son retour du RSS, François-Julien et son retour de Chine. Une émission sur Darwin, donc de la sélection naturelle au bodybuilding, à retrouver sur internet à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent l'écoute en ligne et surtout le téléchargement des émissions de la semaine, ainsi qu'une bibliographie où vous trouverez les travaux, d'abord l'autobiographie de Darwin qu'on a cité à deux reprises aujourd'hui, elle est au Seuil dans la collection Science Ouverte, les travaux de Thierry Hoquet notamment sur Darwin, les travaux de Jean-Claude Amezen, notre invité Jean-Claude Amezen, que nos auditeurs peuvent retrouver s'ils nous sont infidèles et pourquoi pas sur France Inter de 11h05 à midi le samedi. L'émission s'appelle Ça ne s'invente pas, sur les épaules de Darwin, et c'est un modèle de pédagogie, une émission, je dois dire, vraiment formidable. Demain, on continue avec Darwin, on parlera de darwinisme social avec Jean Gaillon. 10h59 et des poussières sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.